France Musique. Les grands entretiens, Saskia Deville.
Bonjour, je suis Karine Dehaye, mezzo-soprano. Je suis née le 25 janvier 1972 à Rueil-Malmaison.
Nous nous quittions hier sur ces collaborations avec différents metteurs en scène. On va continuer à avancer, Karine Dehaye, et nous intéresser à ces années 2008-2009 extrêmement riches. Hein. Plusieurs prises de rôle, hein. Je pense à Niklaus dans Les Côtes d'Hoffmann, La Péricole, ça c'était au Capitole de Toulouse, Adagisa dans Norma à l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne, Roméo et Sesto à Avignon, Popée de Monteverdi à Bordeaux. Vous êtes très demandé à ce moment-là. Comment organisez-vous ces différentes prises de rôle? C'est à chaque fois un investissement énorme.
C'est vrai, je me souvenais pas que j'avais fait les 6, là, je viens de réaliser. Oui, c'est un investissement énorme, mais en fait, faut avoir des post-it, faut t'organiser, faut faire des fiches, aller travailler tel rôle à tel moment, parce que, en général, en plus, on est souvent sur une production qu'on a encore à travailler le rôle d'après. C'est quand même souvent quand ça se croise comme ça. Et il y a une autre année aussi, après, en 2017, je crois, où pareil, il y a eu 5 prises de rôle à la suite. Mais on ne se rend pas compte, en fait. C'est ça qui est génial dans le travail.
Ouais, non, mais vraiment. Donc jamais arrivé d'annuler une production?
Pour l'instant, non. Regarde, je touche du bois. Je suis malade en vacances. C'est pour ça que je ne prends pas de vacances, vous voyez. Mais je n'ai pas annulé dans une seule représentation d'opéra.
Combien de productions vous autorisez-vous chaque saison? Est-ce qu'il y a un calcul qui est fait?
Alors, il doit y avoir un calcul parce qu'il y a une année, j'en ai fait vraiment beaucoup avec le recul. Je crois que dans une année, j'en avais carrément fait 8. Donc là, c'est plus possible. Tout s'enchaînait vraiment et même ça se croisait. Ça, c'est difficile. J'ai des souvenirs d'avoir pris 6 fois l'avion en 7 jours, chanter à un endroit, répéter ailleurs. Ça, je veux plus, par contre, ça c'est sûr. Mais oui, 5-6 maximum dans l'année. Et maintenant, je fais plus attention à ça pour pouvoir justement à côté faire des concerts. Avoir du temps pour faire des concerts, des enregistrements.
C'est vrai que cela impose un rythme de vie très particulier, beaucoup de voyages, des décalages horaires, beaucoup de pression aussi, avec des prises de rôle ou des nouvelles collaborations.
Non, c'est
évidemment
vrai.
Sur scène. C'est toujours évident, peut-être, de mener en parallèle aussi, d'avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour une famille potentiellement.
C'est vrai que quand on bouge comme ça beaucoup, c'est plus difficile. Ça, c'est une réalité, hein. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfants. Donc je me dis que je ne manque pas à mes enfants. Je vois toutes mes amies qui doivent gérer justement avec les enfants entre la garde, l'école, est-ce qu'il est possible qu'ils les suivent, quand est-ce qu'ils peuvent venir. Ça, je me rends compte que c'est vraiment chapeau, c'est très difficile de mener les deux de front. Il faut vraiment avoir des gens à côté pour nous soutenir. Ça, il n'y a pas d'autre solution, c'est sûr.
Un conjoint qui suit?
Oui, ou alors la maman. Je pense notamment, par exemple, à Sonia Yancheva, qui a sa maman qui peut la suivre. Et c'est quand même génial. Parce que faire la carrière qu'elle fait avec les deux enfants, ça devient sinon après vraiment... Bah, pendant les répétitions, on ne peut pas s'en occuper. Et puis après, il y a la scolarisation, donc c'est autre chose. Mais c'est vrai que j'ai la chance que mon amie puisse voyager assez facilement, me retrouver. Et puis finalement, comme c'est moi qui bouge, et ben ma famille est obligée de bouger, voilà. Et mes amis. Et comme ça, voilà, ça fait même encore des souvenirs encore plus beaux, parce que ils viennent me retrouver dans des villes, voilà, partout dans le monde, et c'est important aussi.
Oh!
revenir un petit peu à la France avec vous, Karine Deshaies. En 2009, il y a vos débuts à l'Opéra de Paris. Rosine, encore ce personnage que vous retrouvez. Effectivement, il y aura ensuite Elena. Tous ces rôles vous ont été proposés par Nicolas Joël, qu'on évoquait hier, hein, qui était directeur de l'Opéra de 2009 à 2014. Il est disparu en juin 2020. Il a été un vrai fidèle aussi. Tout au long de votre carrière, Karine Deshaies, vous a donné beaucoup de nouveaux rôles, d'opportunités.
Énorme, et effectivement, c'est comme un papa artistique, hein, pour moi, Nicolas Joël. Déjà, il m'a donné des magnifiques prises de rôle au Capitole, à Toulouse, et effectivement, quand il est arrivé en 2009, il m'a donné mes premiers plans.
À l'Opéra de Paris.
Voilà, à l'Opéra de Paris. Il m'a donné mes premiers plans. J'avais fait déjà beaucoup de productions depuis 2002, grâce à Hugues Gall et Gérard Mortier. Et là, effectivement, quand il est arrivé, il m'a donné tout de suite, Rosine, parce qu'il savait que c'était un de mes rôles préférés. Et comme vous le disiez, par la suite, je venais deux, trois fois par an. J'avais deux, trois rôles, comme ça.
C'est une chance
par saison.
Bah,
c'était extraordinaire. Puis à la suite de ça, effectivement, en dehors de Rosine que j'avais déjà fait, il m'a proposé de faire la prise de rôle d'Elena dans La Donna del Lago en 2010. Donc là, moi, j'étais évidemment aux anges.
De Rossini encore.
De Rossini toujours. Ensuite, évidemment, vous disiez là, Mozart, il y avait les Noces de Figaro, il y a eu Cosi aussi. Et puis la prise de rôle de Carmen. Il y a eu également aussi Charlotte dans Werther avec Michel Plasson et Roberto Alagna. Quel souvenir magnifique. Le couronnement de Poppée de Bob Wilson. Il y a eu également Capuletti Montecchi de Bellini, la production de Robert Carsen. Et puis Le Barbier, en fait, de Colin Serrault, je l'ai même fait trois fois, en fait. Donc... J'étais très contente, voilà, de pouvoir. En plus, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler aussi avec Colline. Donc c'est vrai que ça a été. J'ai l'impression d'être en troupe là. J'ai eu l'impression d'être en troupe à Paris. Je l'étais déjà un peu avec Hugues Gall et Gérard Mortier, mais là, il y a eu une année, je crois que oui, je suis venue quatre fois dans la saison. Donc c'est vrai que j'ai des magnifiques souvenirs à l'Opéra de Paris. Grâce à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance.
De l'artiste lyrique de l'année, ça c'est un titre que vous connaissez bien, hein, Victoire de la musique classique, Karine Deshaies. Trois récompenses, hein, 2016, 2020, 2011, tout d'abord, pour la première d'entre elles. Le 23 janvier dernier, vous avez été nommé officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres aussi. On vous identifie aussi souvent aux ouvrages français. C'est important pour vous de chanter en français, de défendre ce répertoire-là?
Ah oui, moi je trouve, parce que justement, quand on regarde tous les enregistrements des mélodies françaises, il y a énormément d'anglophones qui le font, très bien d'ailleurs, hein, magnifique, mais c'est eux qui ont remis à la mode, en fait, beaucoup ce genre de répertoire. Je pense à des personnes comme Anne Murray ou Felicity Lott, et je me dis, mais mince, c'est à nous aussi d'enregistrer des mélodies de Gounod, de Bizet, voilà, du Parc, de Forêt. On a un répertoire tellement vaste, en plus. Quelle chance. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de défendre aussi le répertoire par rapport aussi à l'opéra. Parce que effectivement, à part Roméo et Juliette et Faust de Gounod, bah oui, Reine de Saba c'est jamais fait, Sappho c'est jamais fait. Il y a une grande mode en ce moment qui revient de l'opéra français de Meyerbeer, donc ça je suis très contente. C'est vraiment un répertoire que j'affectionne. Et effectivement, Rossini, bon ça c'est mon chouchou, ça tout le monde sait que c'est mon chouchou, mais j'aime beaucoup aussi le répertoire français. Et en plus, je trouve que notre langue est très riche justement, avec toutes ces voyelles, cette variété, ça donne une couleur particulière. Je pense au nasal, hein, notamment. Et c'est notre devoir aussi, voilà, de défendre notre répertoire. Thank you.
quel autre compositeur peut-être auriez-vous aimé travailler s'ils avaient écrit pour votre tessiture?
En fait, c'est compliqué parce que comme maintenant, je peux faire aussi des rôles de soprano, vous voyez. Allez, finalement. Non, alors, qui n'ont pas écrit pour ma voix, bah, ce serait peut-être plutôt, si je dois réfléchir, Wagner. Vous voyez, parce que c'est vraiment soprano, ou alors mezzo très grave. Verdi aussi, je pourrais dire Verdi, parce que, à part Fenena, que j'ai chanté dans Nabucco, c'est vrai que c'est plutôt des mezzo très graves, voilà, ou alors des, vraiment soprano. Il n'y a pas eu vraiment, la voix intermédiaire, et je vais même dire un troisième compositeur que j'adore, mais en fait, il n'y a rien pour moi, Puccini. Voilà. Effectivement, là, c'est des compositeurs qui n'ont pas écrit pour la voix de soprano 2 ou de mezzo-soprano. Moi, je ne rentre pas dans les cases.
Que mes peines de Carlos Gardel. Carine D, vous abordez de temps à autre d'autres répertoires aussi. Je pense notamment à ce disque que vous avez enregistré avec un ensemble que vous connaissez bien, l'ensemble Contraste. Que recherchez-vous dans ces collaborations-là?
J'aime bien essayer, en fait. J'aime bien essayer d'autres choses. C'est vrai que grâce à l'ensemble Contraste, j'ai essayé le tango, la comédie musicale, même des livres aussi d'histoires pour enfants où l'on chante, on nous demande de chanter. J'aime bien toucher à tout, en fait. J'ai envie d'essayer. Je suis curieuse, en fait. C'est la curiosité d'explorer des choses. Ça m'intéresse. Que je fais déjà aussi dans le répertoire, finalement, classique. J'aime bien découvrir de la nouvelle musique. Voilà.
Effectivement, il y a régulièrement, et même très, très régulièrement, des prises de rôle hein, tout au long de votre carrière. Il y a aussi, j'imagine, ces rencontres avec des chefs d'orchestre qui vous ouvrent à de nouveaux horizons.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours aimé travailler justement avec les chefs qui étaient dits au départ baroqueux, qui peuvent faire, on se rend compte maintenant, d'ailleurs, d'autres styles de musique. Hein.
Comme qui, par exemple?
Je pense par exemple à Christophe Rousset ou Hervé Niquet ou aussi Marc Minkowski. Voilà, il y a l'étiquette au départ baroque, mais voilà, maintenant ils font aussi du 18e, du 19e. J'aime bien parce qu'il y a eu toujours de la recherche, justement. Et à chaque fois, je garde un magnifique souvenir, voilà, de ces recherches, de ce travail. On a notamment fait avec Hervé Niquet, il y a pas très longtemps, encore un concert avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Et voilà, on a même fait des mélodies de Dvorak. Je pensais pas de faire du Dvorak avec Hervé Niquet, vous voyez.
France Musique, les grands entretiens de Carine Dehaie.
Mais comment gérez-vous alors ces allers-retours entre les grandes scènes des grandes maisons d'opéra internationales et les plus petites salles, les scènes plus intimes lors de récitals? C'est une évidence, ça se met naturellement?
Oui, parce que je pense même pas à ça. Je me dis toujours que je chante pareil d'ailleurs. Voilà. Que ce soit un petit festival, que ce soit une petite salle, que ce soit une grande salle. Je chante vraiment, vraiment pour moi de la même façon. Et je trouve donc toujours aussi important d'aller encore maintenant vers les petits festivals, les petites salles aussi, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens, voilà, de se déplacer à Paris, Salzbourg, voilà, Pesaro, de se prendre l'hôtel, le voyage. Donc c'est aussi notre devoir, je trouve, moi, d'aller vers les gens. Et on l'avait déjà fait, d'ailleurs, avec l'Opéra de Paris, ou même déjà l'Opéra de Lyon, quand j'étais en troupe, d'aller dans les écoles, carrément des primaires, ou alors le collège, le lycée, leur donner aussi cette proximité intimité avec nous, de nous poser des questions, les questions qui se posent vraiment, de venir nous voir en répétition, de venir nous voir nous préparer, le maquillage, les séances aussi de d'essayage, costumes, de nous voir après en scène.
Qui sont des moments assez magiques.
Ben bien sûr, et je pense aussi l'année dernière à une classe, il y avait une classe unique qui était venue voir la générale justement du Werther à Toulouse au Capitole. Ils étaient, oui, une dizaine d'élèves, voilà, dans une classe unique au fin fond de l'Aude. Et de voir l'intérêt de ces enfants, de ces gamins, enfin, c'était impressionnant. Ils étaient heureux comme tout. Et je me rappelle que j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez aller voir l'année prochaine comme opéra? Parce que là, quand même, ils sont restés très, très, très silencieux pendant tout le Werther. Moi, je dis bravo, bravo à l'instituteur. Et un petit de 8 ans me dit, ah, mais je sais pas, j'hésite encore, Parsifal ou Norma? Et là, je me dis, waouh! Parce que Parsifal, quand même, je dis, ça va être long, hein, faut que tu te prépares quand même. Et ben voilà, c'est quand même génial.
Évoquons ce confinement tout de même, Karine Dehaye, cette crise sans précédent que nous traversons. Quels en ont été pour vous les points positifs, les points négatifs? Comment avez-vous traversé cette période inédite?
Alors c'est vrai que comme tout le monde, moi ça m'a surprise, l'arrêt brutal, surtout que j'étais en répétition au Théâtre des Champs-Élysées. Ça faisait un mois qu'on était en train de répéter Roberto Devereux. On en était déjà au Scène Orchestre, on avait déjà fait les costumes, les filages et... Ploup, ça s'arrête. Donc ça, c'est soudain. De toute façon, ça a été soudain pour tout le monde. Hein. Et puis, de se dire aussi que c'était peut-être le moment de s'unir, de se rapprocher. Et j'ai trouvé super que pendant cette période, on ait réussi à s'unir, tous les chanteurs, et à créer une association, l'association Unisson, qui était vraiment au tout départ, comme on disait, un endroit pour dialoguer, pour parler, pour penser à l'avenir, en fait. Parce qu'il y a certainement des choses auxquelles maintenant on doit penser pour transformer les choses.
Comme quoi, par exemple?
Alors, il y a beaucoup maintenant de choses qui se font en version concert. Donc, voir est-ce que pendant un temps, on peut peut-être aller plus vers les versions concert. Est-ce que finalement, si on n'avait pas eu le système des troupes, ça n'aurait peut-être pas quand même sauvé certains? Parce que moi, je pense aussi à beaucoup qui sont en difficulté financière. Donc, de faire l'association et de créer un fonds de soutien, donc c'est super, ça, on doit le faire. Mais peut-être pour l'avenir, pour certains, pourquoi pas retourner dans le système des troupes? Et puis, pourquoi pas, oui, à l'avenir, pourquoi ne pas aussi revenir comme il y avait avant? Aussi de payer les répétitions, de faire des cachets de répétition. Parce que quelquefois, on répète 6 semaines et il n'y a rien. On a de l'argent que à la première, qu'après la première. Donc, essayer de voir comment on peut faire aussi évoluer les futurs contrats par rapport à ça.
Pour une sorte d'équilibre.
Ouais, d'équilibre, exactement. Répartir, tout simplement, voilà, répartir les cachets.
Comment avez-vous fait, vous, Karine Dehaye, pour vous payer vos cours quand vous étiez plus jeune?
Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que moi, j'ai travaillé au McDo. Voilà, j'ai fait 2 ans de McDo. Merci McDonald's pour m'avoir payé mes cours de chant. Non mais je le dis, c'est vrai. C'était parfait pour les horaires parce que quand on est étudiant, on travaille le soir jusqu'à minuit, on travaille les week-ends et moi ça convenait parfaitement à mon emploi du temps. Donc voilà, j'ai travaillé 2 ans au McDo pour me payer mes cours de chant.
L'amour et l'ardente flamme.
Dans d'autres rôles se sont ajoutés plus récemment à votre répertoire. Je pense à Marguerite dans La damnation de Faust de Berlioz ou encore l'héroïne de La reine de Saba de Gounod. Vers quel répertoire vous dirigez-vous? Jusqu'où avez-vous envie d'aller?
Alors jusqu'où j'ai envie d'aller, je ne sais pas, mais en tout cas je suis ma voix. Voilà, ma voix VOIE et VOIX. Et je suis heureuse voilà, que ça puisse me donner la chance d'aborder ce genre de rôle. Parce que c'est vrai que bon, travailler un air, c'est quelque chose, mais travailler le rôle en entier, c'est sûr que c'est autre chose. Et c'est vrai que oui, ça ouvre tout un panel de rôles. Je pense au rôle rossinien, bellinien, chez Donizetti aussi, il y a beaucoup de choses. Et puis effectivement, le grand répertoire d'opéra français. Donc en fait, et je fais aussi les rôles en fonction des propositions aussi. Hein. Ça dépend pas que de nous. Nous, on peut forcément travailler des choses de notre côté.
Mais quelle est la proposition que vous attendez?
Bah, en tout cas, celle que j'attendais sans l'attendre, c'était le rôle de la comtesse dans Les Noces. Effectivement, quand Christophe Risti me l'a proposé... J'avais déjà chanté des extraits, hein. Je pense notamment à un concert que j'avais fait avec Nathalie Dessay et Laurent Naouri à la Philharmonie où je faisais la comtesse dans le trio. Et Nathalie, en rigolant, dit « mais il faut que tu le fasses ». Mais je pensais pas que ça allait arriver, vous voyez, un jour. Et justement, c'est un sacré défi de se dire que j'ai pu faire le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini et que je reprends ce même rôle de Rosine, mais cette fois-ci chez Mozart. Donc ça, c'est le genre de challenge, en tout cas, qui me plaît. Et les rôles à venir, il y aura l'Africaine aussi, de Meyerbeer à l'Opéra de Marseille l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est un rôle qui me tient à cœur. Elisabetta à Pesaro, qui sera finalement reportée l'année prochaine. Et l'année prochaine, il y aura également le rôle de Jeanne Seymour dans Anna Bolena à l'Opéra de Zurich aussi également. Donc c'est vrai que l'année prochaine, il y a encore des rôles à apprendre. Vous voyez, j'ai encore du travail là.
De nouveaux défis. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse aujourd'hui, Karine Dehaye?
De pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire des concerts, surtout à l'heure actuelle, et justement de pouvoir vivre de ma passion. Je me sens vraiment privilégiée. Et puis oui, d'avoir toujours des projets, ça c'est quand même extraordinaire. Avec Delphine Edan, on a d'ailleurs fait un disque, un album, qui sort ce mois-ci. Et justement, voilà, de se dire que des projets comme ça peuvent encore arriver, c'est des cadeaux. Je trouve que c'est des cadeaux. C'est-à-dire qu'effectivement, parallèlement à la carrière théâtrale, opératique, à côté, justement, être encore capable de faire du récital, de partager ça, de pouvoir faire un disque, que ce soit un projet abouti, parce que c'est de longue date. Hein. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses qui me rend heureuse.
Merci beaucoup, Karine Dehaye.
Merci.
C'est avec ce titre « Joie » de Jules Massenet que nous refermons ce portrait. Les grands entretiens de Karine Dehaye, réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Dumont, mixage d'Ofar Guérid, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. La jeune fille dans ses chaudes.
à réécouter sur francemusique.fr.